Bonsoir, merci d'être présent pour cette dernière rencontre du cycle « Peut-on apprendre en jouant ?». Lors des séances précédentes, on a abordé différents sujets. La première fois, la question de l'éducation informelle. La deuxième séance était consacrée à l'utilisation des jeux de société et des jeux vidéo dans le cadre scolaire. Et ce soir, pour cette dernière rencontre de ce cycle, « Se divertir au point d'apprendre », nous allons aborder les questions de gamification et de serious game. Pour cette rencontre, je suis très heureux d'accueillir Vincent Berry et Julien Alvarez. Et je laisserai, bien sûr, Louise Touret les présenter plus en détail que je ne peux le faire maintenant. Louise Touret, que vous connaissez sans doute, qui est journaliste et productrice et animatrice de l'excellente émission Être et Savoir sur France Culture le dimanche à 17h. Très bonne soirée.
Bonsoir, merci d'être avec nous. Donc, troisième et dernière rencontre. Je reviendrai peut-être au fil de la rencontre dans ce qui a pu se dire les dernières fois, mais les rencontres se complètent, mais on n'est pas censé avoir été là forcément pour pouvoir suivre. L'idée, là, c'est quand même de progresser par rapport aux séances précédentes. Donc, on va partir du principe que, oui, on peut apprendre... en jouant, mais que cela peut se faire dans des circonstances assez particulières, soit au fil d'apprentissage dans le cadre scolaire ou dans le cadre de formation, soit avec des procédés ludiques bien établis. Alors, on peut appeler ça les serious games. Alors, est-ce qu'on se divertit vraiment et à quel point ? On ne sait pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est fait pour apprendre. En tout cas, c'est ce qui va vous être décrit. Donc, deux invités, Vincent Berry, sociologue, maître de conférence à l'Université Paris 13 au sein du laboratoire Experis, donc un laboratoire dans lequel on s'intéresse aux jeux, et Julien Alvarez, chercheur et concepteur de Serious Games, donc vous connaissez très bien. Est-ce que d'ailleurs on peut dire jeu sérieux, Serious Games, c'est pareil ou...
Alors, en fait, il y a une petite nuance, c'est que quand on traduit « serious game » par « jeu sérieux », on introduit l'ambiguïté de la langue française qui convoque, pour la définition du jeu, deux aspects, le dispositif de jeu, mais aussi l'activité. Alors que dans la langue anglaise, c'est un peu plus subtil, on a un vocabulaire un peu plus riche, on va distinguer ce qui est de l'ordre de l'activité et ce qui est de l'ordre du dispositif. On parle de « game » et de « play ». Bon. Alors, les puristes pourront être un peu pointilleux là-dessus, mais pour aujourd'hui, on peut dire qu'il y a cette différence-là. Et donc, du coup, quand on parle de jeu sérieux, est-ce qu'on parle uniquement du dispositif ou est-ce qu'on parle aussi de l'activité ? Voilà, mais ça, c'est des points qu'on pourra peut-être aborder.
Je trouve qu'il est intéressant d'expliquer pourquoi on utilise l'expression « serious games » et pas « jeu sérieux », parce que voilà, il y a des gens qui sont pointilleux sur l'usage de la langue française, donc parfois, le mot anglais contient un sens qui paraît plus juste par rapport à la réalité qu'on décrit. Chercheur associé au laboratoire de Visu, Julien Alvarez, ça c'est à l'Université de Valenciennes, et président de l'association Ludoscience. Voilà, science du jeu. Mais on va commencer avec vous, Vincent Berry, sur ces pratiques de jeu dans l'éducation. Parce que ces pratiques ludiques et éducatives, dans les formations plus ou moins académiques, elles ont une histoire, elles s'inscrivent dans une histoire. D'ailleurs, vous pouvez nous dire à partir de quand vous la faites remonter et ce qui a marqué les époques récentes.
Alors, ce qu'on fait généralement quand on fait une histoire, c'est qu'on démarre au plus loin et on démarre avec Platon. Puis ça fait un effet légitimité. Donc, cette idée d'utiliser le jeu en situation d'éducation formelle, c'est-à-dire en situation scolaire, en fait, on va effectivement trouver des traces. En fait, c'est très relié à la pensée qu'on a de la valeur éducative du jeu. Et donc, quand j'évoque Platon, par exemple, chez Platon, il y a une valorisation du jeu, mais pas de n'importe quel jeu. Alors, pour former des citoyens, pour apprendre la guerre, pour apprendre certaines vertus, donc on va, dans les lois notamment, il appelle à utiliser des jeux pour former les jeunes Athéniens. Voilà. Donc on a cet effet-là, mais ça reste, on est plutôt dans la théorie. Et puis on a une espèce de gap un peu dans l'histoire, dans les traces, dans l'étude des systèmes scolaires, on voit pas nécessairement de traces très fortes du jeu. On trouve un peu de récréation, on trouve beaucoup d'activités sportives qui relèvent du jeu, Le moment où on va avoir vraiment une utilisation du jeu pensée comme un dispositif pertinent d'apprentissage, alors ça a peut-être été évoqué dans les séances précédentes, ça va être autour de Froebel, des pédagogies de Froebel, et puis ça va se développer. Donc 18e, 19e, on va commencer à avoir un intérêt en se disant, et si on utilisait le jeu pour l'apprentissage des enfants, et par la suite on se demandera, est-ce que ça marche pour les adultes? Donc on pourrait faire repérer une espèce d'accélération, enfin en tout cas de pensée forte du jeu comme outil d'apprentissage à ce moment-là. On va avoir deux voies qui vont se distinguer, enfin qui vont apparaître. Une première qui est plutôt une pensée anglo-saxonne du jeu éducatif, qui va être influencée beaucoup par Dewey notamment, des philosophes de ce type, ou les philosophes...
Dewey qui est américain.
Voilà, c'est ça. Donc cette pensée anglo-saxonne qui est très pragmatiste en fait, qui va dire au fond, le jeu, mais comme d'autres activités, est porteur d'apprentissage en lui-même. Donc il s'agit de faire jouer les gens s'ils ont envie, et puis ils vont développer des apprentissages. La culture ludique française... Et le modèle français va être plutôt de dire le jeu est un bon outil pour apprendre, mais il faut quand même qu'il soit cadré et même conçu par les adultes et par les enseignants. Et donc c'est un peu le modèle qu'on va avoir et qui va plutôt se développer dans le système scolaire français, c'est-à-dire qu'on trouve des traces de jeu, mais avec une intervention très forte de l'adulte.
Voilà, et j'avais dit que je ferais référence à ce qui s'est dit dans d'autres séances. Il faut savoir que dans un pays comme l'Allemagne, où la tradition du jeu est très forte, dans le système préscolaire, donc c'est l'équivalent de notre maternelle, mais au niveau international, on dit préscolaire, pour nous c'est scolaire, pour donc les enfants de 3, 4, 5 ans, on se contente davantage de les observer en train de jouer, avec assez peu de remédiation, mais une observation continue, fine, et c'est ça le rôle de l'enseignant, pour les diriger de manière assez subtile. En France, on va décider que l'activité ludique est menée par un enseignant avec une consigne. Donc elle se rapproche beaucoup plus d'une activité scolaire, elle est beaucoup plus scolarisée, elle peut même être évaluée parce que notre école fonctionne beaucoup plus comme ça. Mais vous pouvez peut-être compléter sur ces pratiques éducatives que vous connaissez mieux que moi.
Dans votre sens, en fait, ça s'est traduit par exemple où et Julien, tu me contrarieras ou pas, mais que la France a été assez en pointe dans le développement du ludo-éducatif dans les années 80. Donc, je ne vois pas bien les moyennes d'âge, mais au milieu des années 80, par exemple, il y a eu un grand plan qui était le plan informatique pour tous, le 85 de Laurent Fabius, qui a été un équipement massif des écoles primaires. On a mis des ordinateurs, à l'époque c'était des MO5, des TO8.
TO7 aussi.
TO7, pardon.
C'est parce que j'ai participé TO7, en tant qu'élève à ce
peut-être
plan.
Peut-être un TO7D même. Et on a beaucoup développé de jeux ludo-éducatifs, alors qui étaient des espèces d'exercices scolaires plus ou moins déguisés. Et donc les Français ont été assez en pointe dans ce développement d'un jeu éducatif. Et puis on peut même voir qu'après, un peu en dehors de l'école, mais les Français ont été assez en pointe dans le développement des CD-ROM culturels la décennie suivante, où on avait une industrie, où on avait des acteurs comme Cryo, qui était un éditeur de jeux vidéo, mais qui développait des jeux avec des contenus éducatifs comme Versailles, Le Louvre,
Je ne
sais pas si vous avez déjà passé ces trucs-là. Et donc on voit bien qu'il y a cette culture ludique française qui est... Donc on peut dire qu'il y a eu des accélérations aussi avec l'informatique. Mais bon, quand on fait cette histoire-là, des objets ludiques en milieu scolaire, on trouve avant des traces, des lotos. Il y a le musée de l'éducation nationale de Rouen a une très belle collection.
De la pédagogie.
Vous avez une très belle collection, même début 20e, de puzzles pour apprendre, des choses comme ça. Donc on trouve des traces avant, mais il y a vraiment une accélération avec l'informatique dans les années 80, et puis après, mais là je laisserai Julien, avec les Serious Games dans les années 2000.
Mais oui, c'est vrai Julien Alvarez, parce que Serious Games, on pense à un jeu ou des jeux informatiques. D'ailleurs, de quand date l'expression? Quand est-elle arrivée en France? Est-ce que c'est bien lié à l'informatique? Est-ce que dès les années 80, on commence à parler de ça, ou est-ce que ça s'est développé par palier?
Alors, déjà, quand on regarde l'histoire, effectivement, on retrouve dès les années 60 les travaux de Clark Apt, qui est un chercheur américain, et qui a édité un ouvrage qui s'appelle Serious Game, qui est sorti chez Viking Press en 1970. Donc, Clark Apt, qu'est-ce qu'il proposait? En fait, il disait, le jeu peut nous servir, en fait, à apprendre plein de choses, notamment dans le monde de l'entreprise, à s'entraîner notamment, et donc il appelait ça des serious games. Et les serious games pour lui, c'était sous tout type de support. On avait les jeux de société, les jeux de plein air, les jeux de rôle, les jeux qu'il appelait les computer games à l'époque, donc c'est les jeux sur ordinateur. Mais il faut savoir que les ordinateurs à l'époque, c'était des grandes machines qui prenaient plusieurs mètres carrés dans une salle, et c'était pas à la portée de tous. C'était plutôt dans les milieux universitaires ou dans les grands groupes qu'on allait trouver, ou dans le milieu militaire qu'on allait trouver ce type de machine. Ensuite, dans les années, on va dire 80, effectivement, il y a eu le plan informatique pour tous, comme tu l'as souligné, et on était dans ce qu'on appelait l'EAO, l'enseignement assisté par ordinateur à l'époque. Et comme le disait très bien Vincent, on était effectivement dans ce qu'on appelle aujourd'hui des exergames, c'est-à-dire des exercices qui convoquer la thématique du jeu, mais qui n'était pas vraiment des jeux.
Pouvez nous donner des exemples pour qu'on se figure un petit peu alors, de à manière... quel point on jouait et puis éventuellement ce qu'on pouvait apprendre.
Oui, alors de manière très simple, en fait, pour faire un distinguo, mais encore une fois, c'est une caricature, mais c'est pour permettre de comprendre. Vous aviez, par exemple, toute la série des Hadibou, qui sont très représentatifs, qui sont parus plutôt dans les années fin 80, début 90, mais en gros, c'est-à-dire que c'était des activités, des exercices qui vous étaient proposés, par exemple faire des opérations à trous. Et quand vous aviez réussi à faire vos opérations à trous, vous aviez le petit Hadibou, le petit, ce qu'on appelait un avatar, le petit personnage qui accompagnait en fait l'utilisateur qui s'agitait sur le côté en disant « c'est bien, tu vas pouvoir passer à l'exercice suivant ». Mais on le présentait de manière récréative, ludique, voilà. L'idée du serious game, c'est de dire non, on arrête de leurrer en fait l'utilisateur, on sait très bien que c'est des exercices. Dans le cadre du serious game, on convoque vraiment du jeu, c'est-à-dire que on va s'amuser et on va essayer de voir comment faire prendre conscience à l'utilisateur qu'après avoir joué, ce qu'il a mobilisé comme compétence ou comme savoir, en fait, il va se rendre compte que ses compétences et ses savoirs qu'il a mobilisés sont au service peut-être d'un nouvel apprentissage.
C'est intéressant parce que la situation d'apprentissage en jouant, elle existe. Par exemple, si je joue au poker, on en a parlé lors de la première table ronde, la première rencontre, puisqu'à trois, je crois qu'on peut dire c'est juste une rencontre. Et voilà, on sait qu'on va s'entraîner aux probabilités, qu'on va s'entraîner aussi à comprendre un peu les motivations de l'autre. Il y a un aspect psychologique extrêmement fort dans le poker et quelque part, on développe des compétences. C'est plus ou moins formel, mais en tout cas, on apprend des choses et sûrement on apprend déjà à s'améliorer au poker. Ces situations d'apprentissage dans le jeu, elles sont tout le temps présentes et les recréer quand on veut faire un jeu, c'est très difficile.
Alors, en fait, de manière très simple, ce qu'il faut savoir, c'est on dit que le jeu, c'est source de divertissement. Et la différence avec le serious game, c'est qu'on s'inscrit dans les marchés qui s'écartent du seul divertissement. C'est-à-dire que on convoque du jeu, mais quelle est finalement la valeur ajoutée entre faire une partie de poker entre amis et se faire plaisir et la partie de poker qui va pouvoir être utilisée dans un cadre formel comme une formation en entreprise ou à l'école? La différence, c'est qu'à la fin, normalement, il faut qu'il y ait un débriefing, une remédiation qui fasse que cette histoire qu'on a créée, qu'on a conçue durant toute la partie qui a été jouée, fasse en fait office de support pour connecter le scénario pédagogique et dire derrière, voilà, les objectifs qu'on cherche à atteindre, c'était l'apprentissage par exemple de savoir-faire de l'arithmétique, et à travers le poker on a convoqué en fait toute une série d'arithmétiques, on s'en est pas forcément rendu compte, on a fait de la prose sans s'en rendre compte, et donc à la fin on va permettre en fait aux différents participants de le conscientiser en prenant du recul, en faisant ce qu'on appelle une distanciation. C'est-à-dire, on oublie le jeu, on arrête de jouer Et rappelez-vous, pendant que vous étiez en train de jouer, vous avez fait ça, vous avez fait ça, vous avez fait ça. Mais c'est exactement ce qu'on cherchait à vous enseigner.
Donc le serious game, il est explicite dans ses attendus, dans ses objectifs. Et ça, c'est formulé.
Alors.
Mais par. Donc il faut forcément un enseignant.
Alors, il vaut mieux qu'il y ait une médiation qui soit opérée, effectivement. Alors, le défi du serious game, ce qui a été longtemps un défi et qui est complexe, c'est de dire, ben, on va attendre que le serious game soit autoporté. C'est-à-dire que, ben, il fasse tout seul. Avec peut-être éventuellement un avatar dans l'application qui va opérer ce débriefing. Mais ça, c'est compliqué. Moi, je préconise d'avoir effectivement une personne qui fasse le médiateur, que ce soit un enseignant. Mais à ce moment-là, il faut qu'il accepte aussi de se conformer à de nouvelles façons d'enseigner. C'est-à-dire qu'il doit accepter de se mettre en retrait pendant que les apprenants sont en train de jouer. Et qu'ensuite, il fasse cette opération de débriefing. Mais il a un autre rôle à jouer aussi. On pourra peut-être en parler tout à l'heure. C'est d'introduire cette activité. C'est-à-dire qu'il doit engager les apprenants dans l'activité, leur donner envie de jouer, mais aussi de leur donner l'envie d'apprendre. Et une fois que l'activité est lancée, on est vraiment dans du jeu. Et c'est là qu'il ne faut pas se tromper. C'est là où on s'écarte du ludo-éducatif. Il ne faut pas avoir ce rapport biaisé entre le petit adibou qui félicite en fait l'enfant chaque fois qu'il a fait un exercice. Mais on est vraiment dans du jeu. Vraiment dans du jeu. Et c'est à la fin, une fois que l'activité de jeu est terminée, qu'on replie le jeu et qu'on rebascule dans l'activité éducative. Et c'est là qu'on change aussi de plaisir. C'est-à-dire qu'on passe du plaisir d'avoir joué au plaisir de comprendre.
Et
là, on retombe sur Platon.
Et au plaisir d'apprendre. Alors, on comprend bien comment tout ça, on peut l'expliquer à des apprenants, si on veut les appeler comme ça, assez âgés. En même temps, moi qui connais bien le monde de l'éducation, on sait, et c'est ce que nous apprend la sociologie de l'éducation, on sait qu'il y a beaucoup de malentendus autour déjà du sens des apprentissages, autour de la manière dont on apprend. Est-ce que finalement, le ludo-éducatif ne peut pas aussi contenir un certain nombre de malentendus qui freinerait des apprentissages qui seraient censés être rendus au contraire plus faciles par le jeu? L'écueil, il peut être là.
Oui, complètement. En fait, cette histoire d'utilisation du jeu à l'école, elle est liée aussi aux théories du jeu en général qu'on avait. Et pendant longtemps, on a pensé que le jeu était quelque chose de naturel. Puisque les premières théories du jeu viennent, en fait, sont très inspirées du monde animal, et on s'est rendu compte, du côté de l'éthologie, on a vu que beaucoup de mammifères, on va parler petits chats, je donne les petits chats aux étudiants parce que ça a des effets d'apaisement en classe. Et donc, vous regardez les petits chats. Voilà. Donc, si vous regardez un peu les premières théories du jeu, chez l'animal, c'était contre une théorie des instincts en se disant, chez certaines espèces, particulièrement les mammifères et quelques corvidés, vous avez, en fait, le jeu est un trait de cette espèce-là qui leur permet, en fait, d'apprendre. Et donc, par extension, on s'est dit, chez l'humain, le jeu est naturel. Or, on se rend compte que non, en fait, c'est pas évident, que le jeu d'abord est une construction sociale, que le jeu n'est pas naturel, qui répond aux catégories qu'on a du jeu, et surtout qu'on n'est pas également doté de la même culture ludique. Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous le voyez très bien sur la différence entre jeux vidéo et jeux de société. Quand on fait des enquêtes statistiques, je travaille beaucoup sur l'étude des pratiques de jeu en France. Donc vous regardez, le jeu vidéo est une pratique massive, vraiment, et surtout transclasse. C'est-à-dire que vous avez des pratiques des milieux populaires, les enfants d'ouvriers, les enfants de cadres jouent aux jeux vidéo, pas toujours aux mêmes, mais bon, globalement ça se ressemble, sur des jeux différents, bon, je rentre pas dans le détail. Le jeu de société, quand vous commencez à regarder même le Monopoly ou le Cluedo, par exemple, vous vous rendez compte que c'est pas tous les milieux sociaux qui jouent au Monopoly ou au Cluedo. Et donc, l'expérience que vous pouvez faire facilement, c'est vous mettez des enfants devant du jeu vidéo ou du jeu de société. La capacité à s'engager dans le jeu et à comprendre la logique même du jeu n'est pas la même. En plus, il y a une grosse différence en termes entre le jeu vidéo et le jeu de société, c'est que le jeu vidéo repose sur une logique très inductive. C'est-à-dire qu'il vous dit, en gros, en jouant, tu vas comprendre les règles. La puissance du jeu vidéo en termes de captation, c'est ça qui fait qu'il capte autant de gens, c'est qu'en fait, le coût d'entrée est très bas. On vous dit, en fait, il suffit de jouer et puis je vais t'expliquer les règles. Le jeu de société, à un certain niveau, il fonctionne sur la forme scolaire. C'est que c'est un jeu déductif. Si je vous donne les échecs, vous serez incapable de trouver les règles en bougeant les pièces. Mais par contre, il va falloir que quelqu'un vous explique. Et donc, la phase d'apprentissage, elle est un peu plus longue. Et donc, dans les enquêtes qu'on fait, ce qu'on voit bien, c'est les effets de culture ludique préalable des enfants dans la capacité à s'engager dans le jeu. Et ce qui fait que parfois, c'est explicatif de certains succès et aussi de certains échecs d'utilisation du jeu. On se dit, on va mettre du jeu et les enfants vont accrocher. Et en fait, on se rend compte que tous les enfants accrochent pas, certains plus que d'autres, et probablement parce qu'ils ont des cultures ludiques, des familiarités à des formes d'expérience de jeu très différentes et socialement distribuées, pour le coup.
Mais en tant qu'adulte, ce qu'on pourrait voir d'intéressant dans le jeu de société, c'est qu'effectivement, ça permet d'apprendre à se conformer à des règles, ça permet d'apprendre à attendre, à apprendre à perdre, et plein de stratégies. Bon, on parlait des échecs, mais même avec des jeux beaucoup plus simples, tout ça peut paraître extrêmement intéressant. Ça, finalement, c'est déjà un apprentissage très social. Est-ce que c'est vraiment la partie ludique du jeu ou finalement l'apprentissage dans ces jeux-là, c'est le côté pas du tout ludique ?
En fait, le truc important, parfois on vous dit on paye des chercheurs pour dire ça, mais dans les résultats, les enquêtes qu'on fait quand on regarde qu'apprennent les enfants quand ils jouent, et un des résultats qui sort tout le temps, c'est qu'ils apprennent à jouer. Et on nous dit merci beaucoup, que vous êtes pertinent. Mais en fait, ce n'est pas anecdotique. C'est-à-dire que le jeu, ça s'apprend. C'est une forme d'engagement, d'interaction avec les individus qui est très singulière et qui n'est pas évidente, en fait. Donc, on le voit très vite, les premières expériences enfantines. Dans le jeu, les enfants parfois pleurent parce qu'ils comprennent pas quel est l'enjeu, pourquoi tout d'un coup, ou même rentrer dans la fiction, ça s'apprend. Et donc, ce qui veut dire que les expériences même de la prime enfance, dans l'apprentissage même de qu'est-ce que c'est que le jeu, elles sont essentielles par la suite et peuvent ensuite produire. Donc, quand on joue, on apprend à jouer, et ça veut dire qu'on apprend à rentrer dans un cadre très particulier de l'activité humaine.
Et donc, il y a une forme d'apprentissage social, savoir se comporter. On sait que savoir aussi jouer dans ces relations sociales, c'est une manière de dominer aussi la situation, de comprendre rapidement les règles et en jouer.
Oui, alors après, ce qu'on apprend, c'est des formes spécifiques de jeu. Et c'est là où on est... Par exemple, si on faisait une expérience, on se mettait tous avec des types de jeux différents, on mettrait des mots croisés, des jeux d'échecs, des jeux vidéo, on verrait comment chacun d'entre nous, on est à l'aise avec soit les mots croisés, soit... Et puis, si on met les poupées, par exemple, puisqu'on en a un peu parlé, les poupées, c'est une forme d'expérience ludique très particulière qui est centrée sur le faire-semblant, l'imagination, et on verrait comment certains sont, et en l'occurrence, il y aurait des effets de genre, c'est-à-dire comment... les petites filles seraient beaucoup plus à l'aise et les garçons très, très mal à l'aise dans la capacité à jouer avec ces objets-là de façon relativement adaptée. C'est en ça que je dis que le jeu est un apprentissage dans la diversité des formes de jeu qui peut exister.
Alors on va repasser au serious game, mais puisque vous parlez des poupées et finalement des jeux d'imitation, c'est une dimension assez forte de la poupée, c'est pas la seule. Donc jouer à s'occuper d'un bébé, qu'on soit une petite fille ou un petit garçon, on reproduit des comportements parentaux. C'est vrai que c'est traditionnellement plutôt les petites filles, mais ça change. Ces jeux-là, on arrête d'y jouer à partir d'un certain âge, c'est une capacité tout à fait enfantine que celle de se figurer et de prendre au sérieux le jeu d'imitation. Bon, je sais que ça concerne certains adultes, mais c'est beaucoup plus limité. Il y a beaucoup plus d'enfants qui jouent à des jeux d'imitation que d'adultes dans ce qu'on appelle les cosplays ou les jeux où on recrée des périodes historiques. Bien sûr, ça existe, mais presque tous les enfants jouent à des jeux d'imitation, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'enfants.
Oui, mais là, ça renvoie à l'idée que la construction qu'on a du jeu, dans nos sociétés en l'occurrence, c'est qu'elle renvoie à l'enfance. Et effectivement, ce qu'on observe, c'est un temps de jeu. Enfin, là, c'est clair, il y a des effets de génération. C'est-à-dire, ce qu'on voit émerger de plus en plus, c'est des générations d'adultes qui continuent à jouer et qui continuent à jouer à des formes de jeux d'imitation, des jeux de faire semblant. Si vous prenez les pratiques des Sims, par exemple, les jeux de, où on joue un petit personnage.
Donc, est-ce que tout le monde sait ce que c'est? On recrée Sims, une ville dans un monde. Un jeu de poupée.
Une grosse partie de, que j'avais travaillé sur les enquêtes, sur les joueurs de World of Warcraft, qui sont qui est un jeu massivement multijoueur, des gens qui jouent en ligne, qui vivent dans un deuxième monde. Une grosse partie de l'activité, c'est du jeu de poupée. C'est-à-dire qu'ils ont un avatar, ils l'habillent, ils le déshabillent, ils lui racontent des histoires. En termes vraiment de description objective de l'activité, il n'y a pas de différence fondamentale avec ce que fait une petite fille ou un petit garçon. Avec sa Barbie ou son G.I. Joe. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a ce qui change en fait, c'est que nos dispositions à jouer, elles étaient très limitées à l'enfance, mais que on a quand même un développement et vraiment les enquêtes le montrent, d'une activité ludique qui va au-delà de la question au-delà des enfants et qui se développe chez les adultes très fortement.
Alors, ces adultes apprennent-ils en jouant? Alors, il y a ce qu'on apprend et puis il y a les processus qui sont mis en branle par ces jeux plus ou moins sérieux. Ces jeux avec plus ou moins le but d'apprendre. Mais qu'est-ce qui se passe dans le cerveau des joueurs ou des apprenants? Vous les appelez comme vous voulez, Julien. J'ajoute, avant que vous répondiez, puisque vous prenez le micro, vous pourrez poser des questions, commencer à y penser. S'il y a des choses qui vous passent par la tête, vous levez la main et puis on sera ravis de vous tendre le micro et puis de vous répondre, en tout cas pour Vincent et Julien.
Alors, de manière très simple, j'ai demandé en régie à ce qu'on mette une image. Si on peut nous envoyer l'image. Je vais essayer de vous expliquer.
Il y a beaucoup de choses à lire.
Voilà. Pour vous montrer à la fois, alors je ne sais pas si le micro peut aller jusque-là. Ouais, on va essayer. Si, c'est super. Alors, en fait, voilà comment on construit en fait une séquence ludopédagogique. Je vais essayer de vous l'expliquer et je pense que ça va du coup répondre à pas mal de choses qu'on a abordées ensemble. Alors, de manière très simple, en haut à gauche, vous avez 5 dimensions qui sont proposées. D'abord, la pédagogie, le jeu, le contexte, apprenant et ici, enseignant. Ça, c'est 5 dimensions qui sont importantes à convoquer quand on veut faire une séquence ludopédagogique. Ce qui est la pierre angulaire, c'est d'abord, quand on s'inscrit dans une approche formelle, de savoir quels sont finalement les objectifs pédagogiques qu'on a envie d'atteindre. Ça, c'est la différence avec des apprentissages informels. Mais là, c'est plutôt Vincent qui est spécialiste, donc je le laisserai compléter. Ce qu'on peut dire, c'est que quand on commence à construire sa séquence, on a d'abord défini ce qu'on cherche à atteindre. Ensuite, on va chercher le ou les jeux. Le ou les jeux ne sont pas forcément des serious games. Ça, c'est très important. Ça peut être n'importe quel type de jeu. Des jeux de cartes, des jeux de société, des poupées, des jeux vidéo, plein de choses. En fait, ce qu'on va aller chercher, c'est la cohérence, la réponse entre cette ressource qui devient une ressource pédagogique et le scénario pédagogique. C'est-à-dire qu'en clair, quels sont les jeux qui vont s'inscrire le plus en cohérence avec les objectifs que je cherche à atteindre. Je vous donne un exemple. Tout à l'heure, vous avez parlé beaucoup d'aspects en lien avec la sociologie. Vous avez parlé beaucoup vous avez évoqué le fait que pour chacun de nous, on a une approche culturelle qui est différente par rapport au jeu. Et ça, il y a par exemple un enseignant, un formateur qui travaille dans les ONG et qui a utilisé une méthode qui est extrêmement simple, qui est la suivante. Il invite en fait des personnes, des stagiaires qui vont partir dans les quatre coins du monde en mission humanitaire et il leur dit « je vais vous apprendre à jouer à la belote ». Il fait 4 groupes. Les 4 groupes, en fait, sont séparés et chaque groupe se voit assigner une règle du jeu qui est différente. Dans un groupe, c'est par exemple l'as qui est la carte la plus forte. Dans un autre groupe, c'est le roi. Dans un autre, c'est le valet. Dans un autre, c'est le neuf. Et il leur donne comme consigne à tous, vous n'avez pas le droit de parler. Et lorsque vous allez jouer, vous devez faire en sorte de bien respecter vos règles. Et en fait, qu'est-ce qu'il fait? Il va mélanger les 4 groupes quand il va inviter les gens à jouer à la belote. Et en fait, va se passer ce qui va se passer, c'est-à-dire qu'on a un joueur de chaque groupe, donc chacun a en tête sa règle du jeu. Et comme ils n'ont pas le droit de parler, dès le premier tour, il commence à y avoir un malaise parce qu'il y en a un qui pose l'as en se disant « c'est bon, je vais gagner », un autre qui pose le 9, un autre le valet et un autre le roi. Et ils sont tous à vouloir attraper les cartes, mais ils n'ont pas le droit de parler. Donc, il y a un malaise, ils se regardent, mais j'ai des tricheurs face à moi, qu'est-ce que c'est ? Et ensuite, très rapidement, le formateur s'arrête et il dit « voilà ». Ça, c'est exactement ce que vous allez vivre quand vous allez partir en mission humanitaire. C'est-à-dire, vous êtes dans une culture qui vous est étrangère, vous ne maîtrisez pas la langue, vous arrivez avec vos approches en pensant que c'est l'approche occidentale qui est la meilleure, mais c'est peut-être pas forcément la plus adaptée. Et face à cette situation-là, ben vous aurez des tensions et des malaises. Exactement comme on vient de le contextualiser avec cette petite partie de belote abordée. Donc là, on voyait que par rapport à ce scénario pédagogique, ce qui est important, c'était tout simplement de convoquer une partie de belote. Ensuite, ce qu'on va aller chercher, c'est le contexte. Dans quel cadre on fait cette formation ? Là, on était dans une formation humanitaire, on aurait pu être en entreprise, on aurait pu être dans une école. On a plein de choses qui se passent dans un contexte. On a, par exemple, dans des écoles, des ordinateurs qui ne marchent pas ou qui sont pas reliés à Internet ou un chef d'établissement qui croit pas du tout à la ludopédagogie ou des parents d'élèves qui sont hyper réactifs, mais il n'y a pas les moyens de pouvoir faire tout ça. Ou alors, on a des pannes techniques, des bugs pour le lancement de certains jeux. Donc, tout ça, ça fait partie du contexte et ça peut venir perturber l'activité. Après, on a les apprenants. Donc ça, comme vient de le dire Vincent, ben, on a des apprenants qui ont l'habitude de jouer ou pas. Donc ça, ça nous donne des situations qui sont assez rigolotes. C'est, par exemple, on a une étude qui a été menée sur l'Académie d'Aix-en-Provence par Anne Wicks, et elle nous dit la chose suivante. Il y a une très bonne réception des jeux vidéo dans les classes, sauf quelques exceptions. Alors, ces exceptions, c'est quoi ? C'est des classes où, en fait, les élèves qui sont plutôt à la traîne, avec l'introduction du jeu vidéo, ils ont été mis en situation de pouvoir devenir aidants pour les têtes de classe. C'est-à-dire, comme ils avaient l'habitude de jouer, comme ils avaient cette pratique vidéoludique, bah du coup, ils ont pris de l'assurance et ils ont pu aider les autres. Et ça, c'était très valorisant pour eux. Sauf que, ceux qui étaient en tête de classe, ça a été le phénomène inverse. Ils avaient tellement l'habitude des règles, des codifications qu'il y avait dans la classe, de connaître les stratégies de la note, de connaître ce que l'enseignant attendait d'eux pour être en tête de classe, que là, ils se sont retrouvés complètement déstabilisés avec l'introduction du jeu. Et du coup, pour eux, ça a été un contre-effet. Donc à partir de là, tout dépend, effectivement, le public d'apprenant et savoir si ça va être une opération qui va être bénéfique pour elle ou pas, pour ces personnes-là. Et enfin, on a l'enseignant. L'enseignant, quelle est sa capacité à introduire l'activité, quelle est sa capacité à l'animer et quelle est sa capacité à la débriefer. Tout ça, ça s'apprend. Et donc, on a des enseignants, malheureusement, qui ont été bernés par certains types de jeux, comme par exemple des Green Games. Ce sont des jeux qui prônent l'écologie. Et en fait, parmi les jeux qui prônent l'écologie, l'énergie verte, il se trouve qu'il y a des jeux comme Énergieville, par exemple, ou des jeux qui ont été faits par des compagnies d'électricité, qui en fait prônent soit les matières fossiles, soit l'énergie nucléaire. Et donc à partir de là, les enseignants qui pensaient faire un jeu tout simple où on allait poser des éoliennes ou des panneaux solaires, ils se sont retrouvés avec des élèves qui leur ont dit « Mais monsieur, ça marche pas. Là, dans le jeu, on nous dit sans arrêt « Et si vous utilisiez du pétrole en boucle, qu'est-ce que ça veut dire ?» Et donc à partir de là, les enseignants, ils ont été complètement bernés. Et tout ça parce qu'ils ne maîtrisaient pas certains codes qui permettaient en fait de lire en fait, un jeu vidéo. Donc à partir de là, une fois qu'on a pris en compte toutes ces dimensions-là, on a ici au cœur de ce schéma, alors je suis désolé, hein, c'est des chercheurs, on aime bien avoir des modèles comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a trois phases qui sont très importantes dans l'activité. On a la phase introductive. Cette phase introductive, c'est comment on va engager en fait, les apprenants dans cette activité ludopédagogique. Ça, en fait, ça s'inscrit dans l'idée qu'il faut motiver les gens pour s'inscrire dans le jeu. On va faire du storytelling, c'est-à-dire on va raconter une histoire qui donne envie de s'y engager, tout en expliquant, ou pas, selon les enseignants ou les enseignantes, qu'on va apprendre quelque chose à travers cette activité. Ensuite, une fois qu'on est dans l'activité, on va l'animer. L'animer, ça veut dire quoi ? Ça veut dire arbitrer, le cas échéant, aider quand il y a des difficultés, accompagner quand il y a des personnes qui ne voient pas forcément toutes les informations durant le jeu. Et une fois que l'activité est terminée, on va apprendre à la débriefer. C'est là où, en fait, on va prendre du recul. Alors, ici, il y a l'Université de Louvain qui s'est emparée du modèle et qui ont rajouté deux étapes. Une étape qui est la conception du scénario. Ça, c'est quand on veut réaliser, en fait, la séquence ludopédagogique. Donc, séquence ludopédagogique, ça englobe le serious game. Le serious game, c'est juste le dispositif. Là, c'est carrément toute la séquence. Et ils ont aussi rajouté, à la fin, une étape évaluative qui permet de dire est-ce que finalement ça a été efficient par rapport à des enseignements plus traditionnels, plus classiques.
Alors, c'est une phase évaluative du jeu au global sur
de
le groupe.
De la séquence ludopédagogique.
Voilà, oui. Mais pas des apprenants.
Alors, non. L'idée, c'est de dire finalement ici, dimension par dimension, est-ce que éventuellement les apprenants ont bien atteint les objectifs pédagogique, c'est-à-dire ce qui était prévu dans la dimension jaune. Mais ce qu'on va questionner aussi, c'est tout le processus, c'est-à-dire est-ce que l'enseignant a été efficient ? Est-ce que le jeu convoqué a été efficient ? Est-ce que finalement, en sortant de là, on a appris ce qui était recherché ?
Alors, on voit qu'il y a beaucoup de paramètres. Il ne faut pas croire que c'est plus simple pour les apprentissages académiques tels que la grammaire ou les mathématiques. En fait, on pourrait les découper de la même façon. Ça peut être fait dans les écoles de l'enseignement. Enfin, maintenant, ça s'appelle les SP. Ça va rechanger de nom. Avant, ça s'appelait les oui. IUFM. Est-ce que vous faites la relation avec l'EPS, l'enseignement physique et sportif ? Parce qu'il y a... Le côté ludique a vraiment sa place dans une des disciplines scolaires. C'est la discipline sportive. On n'appelle pas ça le sport, c'est vraiment l'éducation physique et sportive.
Alors, tout dépend quelles sont les activités.
Alors oui, je parle pour le volley, par exemple,
oui, voilà.
Le sport
foot,
collectif.
Le rugby, le basket.
Le sport collectif voilà. Étant relié à une pratique ludique.
Oui, c'est-à-dire c'est toutes les activités sportives où il y a la possibilité de perdre ou gagner, par exemple. Comme dans le foot ou dans...
Voilà. On marque des points, des buts.
Voilà. Après, on peut toujours, dans l'absolu, dire qu'on peut perdre ou gagner dans une partie qui concerne... Enfin, ou une activité qui concerne la gymnastique. D'avoir réussi à faire tant de cabrioles dans un temps donné, etc. Mais c'est vrai qu'on sort peut-être de ce qu'on a l'habitude d'appeler un jeu. Mais il n'empêche que la relation entre le jeu et le sport est très proche. Ça, on ne peut pas le nier.
Ce que je trouve intéressant avec la pratique du sport, c'est que justement, le but, par exemple, c'est d'atteindre une certaine forme de confiance en soi, et puis aussi une certaine... d'être à l'aise avec son corps. Enfin, c'est ce qu'on dit du côté des professeurs de PS. Et pourtant, on va être jugé sur les points, sur sa capacité à gagner, à aller vite. Enfin, des critères hyper sportifs. C'est comme si on était jugé dans le cadre d'un serious game sur sa capacité à gagner dans le jeu.
Alors, il y a quand même une différence qui est très importante. C'est que quand on utilise le jeu, et ça, c'est Gilles Brougère qui nous le dit dans un de ses critères. Il nous dit que normalement...
Bon, on peut peut-être rappeler qui est Gilles Brougère pour
oui, les gens qui ne savent pas. C'est un professeur en sociologie qui travaille à l'Université Paris 13 et qui est le mentor notamment de Vincent, ou qui a été son directeur de thèse en tout cas. Voilà. Et donc après, ce qu'on peut dire, c'est qu'en fait, le jeu... Il y a plein de façons de le définir. C'est très complexe à définir le jeu. Mais Gilles a défini plusieurs critères, plusieurs paramètres. Et l'un de ces paramètres, c'est la frivolité. C'est-à-dire que normalement, un jeu, c'est la frivolité.
C'est
ça veut
amusant.
Dire, c'est amusant. Et puis normalement, c'est antinomique avec le fait qu'il y ait des conséquences qui soient associées à ça. C'est-à-dire que si, par exemple, vous jouez à une partie de Monopoly, si vous avez perdu ou gagné, ça ne va pas normalement changer votre quotidien. Contrairement à une partie de roulette russe, par exemple. Donc, à partir de
contrairement à un exercice scolaire noté.
Voilà. Tout dépend.
Un exemple un peu moins dramatique.
Exactement. Donc, tout dépend des enjeux. C'est-à-dire, si vous montez, par exemple, dans un simulateur de vol et que vous avez un instructeur qui vient derrière et qui vient vérifier si vous êtes apte à piloter pour rentrer dans une compagnie aérienne, vous avez un enjeu. Donc ça, ça vient dans la dimension contexte. Vous voyez, le contexte, s'il est trop fort, il peut tuer le jeu. Par contre, vous prenez un enfant de 6 ans, vous le mettez aux commandes en fait, de ce simulateur de vol, pour lui, il n'y a pas cet enjeu-là. Il va se prendre pour un commandant de bord et il va s'amuser. Donc, il va rentrer dans une activité qui est de type jeu.
Pour jeu lui. Frivole, divertissant et pourtant non dénué d'apprentissage, puisque chaque occasion, formelle ou non formelle, de jouer peut se révéler riche en apprentissage. Vincent Berry, est-ce que vous voulez revenir sur ce schéma et les explications permettre d'éclairer le schéma qui était peut-être un peu compliqué. Et puis, ces dimensions de contexte qui sont très, très importantes dans le fait d'apprendre ou non et d'apprendre efficacement ou non en oui. jouant.
En fait, c'est ça qui fait que le jeu, alors moi, de mon point de vue, il a des propriétés intéressantes, mais il ne résout pas des problèmes didactiques fondamentaux que tu rencontres. C'est-à-dire qu'un des problèmes qu'on a, parce qu'on pourrait dire, au fond, le jeu tel qu'il est présenté ici renvoie à une tradition des pédagogies actives. C'est-à-dire qu'au fond, on met les élèves en situation. Si vous allez dans les modèles côté freiné, ça va être vraiment à l'initiative des enfants. Donc on va vraiment partir et puis l'adulte sera là pour encadrer. Donc on peut dire que le jeu renouvelle cette pensée de la pédagogie active, mais ne résout pas pour autant les problèmes didactiques habituels, qui est que vous pouvez avoir appris des choses dans un jeu, vous pouvez en apprendre réellement, mais elles ne correspondent pas nécessairement au savoir qui est visé. Autrement dit, ce que vous apprenez dans le jeu, est-ce que c'est transférable dans d'autres situations ? Et là, on arrive au problème fondamental de l'utilisation du jeu, c'est la transférabilité des savoirs. C'est-à-dire que je peux développer... c'est le cas que je donne beaucoup sur une enquête que j'avais faite, c'était les joueurs de jeux vidéo qui jouent en ligne. Donc j'avais travaillé sur des adolescents qui jouaient beaucoup aux jeux vidéo en ligne. Et pour certains, ils étaient devenus de vrais managers. Mais c'est impressionnant. C'est-à-dire des types qui gèrent des communautés de copains, ils doivent mettre. C'est des jeux de combat, donc ils s'organisent. Alors qu'il n'en avait pas spécialement. Moi, j'avais étudié de façon longitudinale et de voir des compétences qu'avaient développées des adolescents, ou même des jeunes adultes en réalité. Donc, ils avaient tout un truc. Et quand vous les mettiez en situation de transférer leurs connaissances, ça ne marchait pas. Et qui renvoie à un problème fondamental de l'apprentissage, c'est que l'apprentissage, en fait, est très situé. C'est-à-dire ce que nous apprenons est très situé à un contexte et que tout le travail de l'éducation, c'est cette décontextualisation des savoirs. Et donc, en ce sens-là, le jeu a plein d'intérêts, mais il ne résout pas une des difficultés fondamentales à laquelle est confrontée l'école, c'est cette décontextualisation.
Mais c'est ce qui est extrêmement intéressant parce que nous, on va se dire, d'un côté, finalement, on joue. D'un autre côté, on apprend. Quand on joue, même si on devient hyper fort, on n'est pas sûr qu'on puisse transférer ses savoirs. Et pourtant, moi, ce que je sais, ce que j'ai appris, c'est que les études internationales qui évaluent notre système scolaire, vous avez sûrement déjà entendu parler de PISA, donc c'est l'étude de l'OCDE, elle évalue les compétences des élèves de 15 ans. 15 ans, donc c'est après la seconde. Normalement, on pense à peu près que c'est la fin de la scolarité obligatoire au global. Alors, pour les pays de l'OCDE et les pays qui participent, c'est environ 85 pays. Et la France produit des résultats extrêmement intéressants. C'est-à-dire que nous, les apprentissages scolaires, on est assez moyens. On n'est pas nuls, hein. On est moyens. On aimerait être meilleurs parce qu'on se pensait meilleurs. Et puis surtout, il y a un énorme souci de reproduction des inégalités sociales. Vous en avez sûrement déjà entendu parler. Et ce que montre aussi cette enquête, c'est la difficulté des élèves français à utiliser des savoirs scolaires dans des situations non scolaires. Dans le dernier ou peut-être l'avant-dernier test PISA, il y avait une question autour d'une affichette qui aurait été dans un supermarché indiquant qu'une pizza n'était plus propre à la consommation. Il y avait un problème de date de péremption. Voilà. Et en fait, on remarque que les élèves français en situation d'évaluation, mais qui diffèrent un peu de la norme scolaire telle qu'elle est posée, ça se révèle les plus nombreux à ne pas répondre. Bon, ça, c'est quand même intéressant. Et puis, avec des difficultés à faire passer un savoir académique à un champ non académique. Finalement, ce qu'on vous reprochait au jeu, mais on peut faire le même reproche, et c'est là où je voulais en venir, à la forme scolaire, c'est-à-dire que là où le jeu s'avère assez incompétent à faire circuler son savoir hors de la sphère ludique, finalement, est-ce que les savoirs scolaires n'ont pas la même limite au-delà d'un public d'élèves très agiles qui arrivent à mobiliser leur savoir en toutes circonstances, parce que c'est aussi ce qu'on leur a appris hors de l'école?
Il y a deux façons, parce que c'est un débat vraiment important, en fait, cette question de la transférabilité, puisqu'il y a deux réponses, en fait, et deux pistes, en fait, de recherche. Il y a ceux qui disent, au fond, la transférabilité, c'est la clé, en fait, de la réussite de l'éducation. C'est-à-dire ce que vous évoquez là. C'est-à-dire, en fait, il faudrait que l'enjeu, c'est qu'on soit capable de transférer des connaissances qu'on a développées à l'école dans d'autres domaines ou d'autres domaines dans l'école.
Et d'ailleurs, le succès scolaire repose sur la capacité des élèves à transférer des savoirs acquis à l'extérieur. À l'école, c'est parce qu'ils ont une culture familiale proche de l'école. Et c'est ce qu'on disait à propos de des reproductions sociales.
Donc, il y a cette piste-là qui dit, au fond, il faut travailler là-dessus. Et donc, ça a développé toutes ces approches-là autour de la métacognition, apprendre à apprendre, tous ces trucs-là, avec l'idée qu'au fond, il faut plus se centrer sur les savoirs, mais il faut apprendre, donner les clés où ils sont capables de mobiliser des ressources, de les acquérir, et voilà. Après, il y a d'autres théoriciens, d'autres chercheurs en éducation, que je suis un peu, c'est des gens qui remettent en cause la transférabilité, et qui disent, au fond, il n'y a pas de transférabilité. Nous ne faisons que construire des savoirs, mais en fait, qui sont attachés à des communautés auxquelles on veut appartenir. Et c'est toute la théorie des anthropologues de l'éducation de Jean Lave et Etienne Menger. C'est toute la théorie des communautés de pratique. C'est des gens qui ont radicalement mis en cause l'idée de transférabilité en disant, au fond, c'est parce que on veut participer à des pratiques sociales que on développe des apprentissages, et que les apprentissages, de ce point de vue, ne sont qu'un effet secondaire de la participation à des pratiques sociales. Alors, comment ils ont fait ça? En fait, Jean Lave avait travaillé, par exemple, sur des femmes aux États-Unis, de milieux populaires, souvent avec des familles nombreuses, et elle les avait observées faire des courses au supermarché. Et donc, elle se rendait compte comment elle devait gérer des budgets serrés, donc planifiés, et donc à développer des compétences de division, distribution, anticipation d'un budget, tout ça. Si on leur demandait exactement la même situation en situation scolaire, elles étaient incapables de reproduire les opérations. Moi, de la même façon, dans World of Warcraft, j'avais travaillé sur des élèves, sur des jeunes qui se prenaient, pour parler trivialement, des tolls en maths, qui étaient vraiment très mauvais. Mais quand on regardait l'activité qu'ils développaient dans le jeu, ils étaient capables de faire ce qu'on appelait des calculs de SC, c'est-à-dire des calculs d'équipement, de faire des systèmes de... Enfin, en gros, un peu des équations pour essayer de trouver quel est le meilleur équipement possible pour leur personnage. Et alors qu'ils étaient... voilà. Et quand on leur demandait de dire « Mais ça, c'est le genre d'exercice que tu peux avoir », ils ne voyaient pas le lien. Et donc, on est toujours confronté à ce truc-là avec deux pistes de recherche. Une qui est de dire « Il n'y a pas de transférabilité ». Et en fait, c'est parce qu'on veut participer. Et donc, à ce moment-là, il faut travailler sur l'engagement à l'école, c'est-à-dire le fait... sur la question de la bienveillance, enfin pas seulement de la bienveillance, mais le fait de
l'adhésion
d'être
aussi
d'être
au projet scolaire,
en fait, de trouver voilà quel aspect de l'activité scolaire on peut attraper les élèves, ou d'autres qui disent non, il faut continuer à travailler sur la transférabilité des savoirs, quoi.
Alors la transférabilité des savoirs et apprendre à apprendre, c'est très à la mode aujourd'hui. Hein, Stanislas Dehaene, extrêmement connu, qui est aujourd'hui le président du conseil scientifique de l'éducation, prône cette idée-là. Et lui, ça s'appuie sur des recherches en neurosciences. Mais des enseignants lui répondent que oui, enfin, il y a vraiment la question de l'enseignant, de l'adhésion au projet scolaire. Donc le débat reste ouvert. Ça, on s'éloigne un peu du
non,
sujet,
mais si je peux rajouter quelque chose. Ce qui est important aussi, enfin moi ce que je constate, j'ai eu la chance de vivre dans trois cultures différentes, en Suède, en Espagne et en France. Alors c'était dans les années 70, j'étais tout petit, mais dans les années 70, quand on était en Suède, dans l'équivalent de ce qu'on appelle le préscolaire, vous en parliez tout à l'heure, on était dans une maison. En fait, les écoles, les préscolaires ressemblent à une maison, c'est-à-dire qu'on a une cuisine, une salle à manger, une chambre à coucher, etc. Et en fait, dans chaque lieu, on apprend des choses différentes. On est sensibilisé, par exemple, dans la cuisine à, par exemple, des expériences de chimie, on fait de la cuisine, on fait des choses qui sont de cet ordre-là. Dans le salon, on va apprendre, par exemple, on va regarder la télévision, un documentaire, puis on va en parler, on aura un débat. Dans la salle à musique, on va faire du piano, on va répéter pour faire un spectacle, etc. Dans la chambre, on peut jouer, on peut se divertir, on peut dormir, et puis on peut aussi accueillir des invités qui viennent jouer dans notre chambre et qui vont nous raconter des choses. Par exemple, on avait eu un aveugle qui était venu avec son chien et il nous expliquait ce que c'était d'être aveugle. Et donc, les enfants sont là dans la chambre avec le fait de dire « Tiens, vous ne voyez pas ce jouet, c'est sûr, vous ne voyez pas, etc. » Donc, on est là, finalement, avec une prise en compte de l'espace qui est très importante. Le jeu est là, mais pas forcément omniprésent, on ne l'impose pas, il est là, on peut le prendre ou ne pas le prendre. Ensuite, quand je suis allé en Espagne, c'était sous le régime de Franco. Et là, les jeux, ils sont rares, les jouets sont rares et sous vitrine. Et je me souviens d'interminables après-midi de sieste. Alors, il fait chaud en Espagne, hein, mais enfin, quand même, il n'y avait pas un éveil éducatif assez poussé. Voilà, on dort beaucoup. Et en France, quand je suis arrivé en maternelle, c'était beaucoup d'apprentissage par les interdits. C'est ce qui m'avait frappé. Beaucoup de consignes, on en parlait. C'est-à-dire, n'écrivez pas dans la marche, vous écoutez la maîtresse, vous ne la tutoyez pas, vous répondez à ses questions, etc., etc. Alors qu'en Suède, on était habitué à interpeller, c'était des mamans. Donc on était vraiment dans une autre approche. Vraiment. Donc ça veut dire qu'en fait, moi, ce qui m'a énormément frappé, c'est quand je suis arrivé en France, et c'est pour ça que j'ai fait cette thèse et ce parcours, c'est de me dire, mais bon sang, pourquoi on a 30 ans de retard en France sur le système éducatif par rapport à ce qui se passe en Suède ? Et je continue à dire qu'aujourd'hui, on a toujours du retard par rapport à ce que j'ai vécu dans les années 70 en Suède. Voilà. Donc je veux dire qu'il y a, au-delà des questions de transférabilité, etc., je pense qu'il y a aussi une réorganisation complète de la manière d'enseigner qu'il faut revoir, repenser les espaces, donner l'envie aux enfants de prendre des initiatives, arrêter la peur de l'échec. Et c'est pour ça que je défends le jeu, c'est parce que dans le jeu, on ose recommencer. Ad vitam aeternam, tant qu'on n'y arrive pas, mais on peut recommencer et on n'est pas jugé. Ici en France, on a la culture de l'échec. Tu t'es raté, tu ne vaux rien, c'est fini pour toi.
Alors, La maternelle française, ben après ça dépend des enseignants, n'est pas forcément aussi dure aux enfants que ce que vous écrivez. Je suis désolée pour...
Je parle des années 70.
Votre expérience, mais je crois que tout le monde se figure quelque chose de l'école qu'il a pu ressentir ou voir et qu'il a connu, maternelle ou peut-être un petit peu plus tard. La question, c'est pas seulement celle du jeu, c'est celle de la liberté et celle de la liberté laissée à l'enfant dans la confiance qu'on peut avoir en lui pour les apprentissages. Cette question de la liberté, est-ce qu'elle est vraiment présente dans le jeu tel que vous avez décrit, dans la gamification, on va y venir. Parce que finalement, le jeu tel que vous nous l'avez décrit par rapport à cette expérience suédoise, bon là, on est très, 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 très guidé. Hein. C'est du jeu,
alors,
c'est sérieux parce qu'il y a des règles, il y a une progression.
Tout dépend de la manière dont on anime cette activité. Ça dépendra des animateurs, des médiateurs, des animateurs, enfin... Tout dépend. Il y a des jeux dans lesquels on peut avoir beaucoup d'initiatives, de prises d'initiatives, comme par exemple le jeu de rôle. Dans le jeu de rôle, on fait beaucoup appel à l'imaginaire des joueurs pour résoudre des situations données. Après, il y a des jeux où effectivement, on n'est plus cadré. Et si par exemple, vous jouez à une partie de Monopoly, comme on l'évoquait tout à l'heure, il n'y a pas 36 000 façons de jouer au Monopoly.
Hélas.
Voilà.
Enfin, moi, j'en ai inventé d'autres.
Voilà. Mais après, on peut les détourner. Ça, c'est encore. Alors là, on rentre dans le serious gaming. C'est encore une autre activité. Mais ça dépend du jeu que vous allez convoquer, en fonction, toujours pareil, de ce que vous souhaitez atteindre comme objectif pédagogique.
Alors, ce jeu de rôle, j'ai entendu jeu de rôle.
Oui.
drôle comme rigolo jusqu'à l'âge de 16 ou 17 ans, je crois. C'était une découverte pas possible. Donc, jeu de rôle, il est utilisé aussi dans des cadres type entreprise. Et finalement, la gamification, aujourd'hui, c'est un mot, vous allez me dire s'il est galvaudé ou non, qu'on trouve partout. On est censé gamifier l'expérience client. Alors, je ne parle pas du tout comme ça dans la vie, mais c'est des choses que j'ai lues. On peut gamifier les relations en entreprise, le travail des équipes dans des banques. Déjà, on parle très, très sérieusement. Qu'est-ce que ça veut dire par rapport au jeu et à l'idée de jouer vraiment?
Alors, le processus de gamification, c'est l'inverse, en fait, d'un serious game. Alors, comment on fabrique un serious game? Un serious game, c'est l'idée de « je prends un jeu » et j'essaye de lui injecter des aspects utilitaires. Alors, on a trois fonctions utilitaires qu'on associe en général dans le cadre du serious game. C'est 1, la possibilité de diffuser des messages. 2, de dispenser un entraînement. 3, de collecter des données. En fait, c'est les trois piliers qu'on trouve dans l'éducation. C'est transmettre un cours, proposer des exercices, évaluer. En fait, c'est les trois mêmes fonctions qu'on retrouve là. Le processus de gamification, c'est l'inverse. On part d'un objet utilitaire et on va essayer de lui associer des éléments ludogènes. Je prends une cafetière, je prends une paire de baskets, je prends une voiture et je vais y associer en fait des éléments de jeu. Exemple, dans les tableaux de bord de certains véhicules aujourd'hui, vous avez entre le compteur de vitesse et le compte-tour une petite fleur. Et cette petite fleur, en fait, elle a des pétales qui vont pousser, qui vont s'afficher au fur et à mesure que vous avez une conduite qui est éco-citoyenne. C'est-à-dire si vous écrasez pas trop le champignon, si vous respectez en fait les limitations de vitesse.
Un peu comme le petit bonhomme des années 80 sur
Oui. Voilà. Donc là, c'est des fleurs qui poussent. C'est tout simplement pour vous inciter à avoir une conduite un peu plus responsable. Si vous écrasez le champignon, si vous faites des à-coups brusques dans votre conduite, bah vous aurez les fleurs dont les pétales vont faner. Et ça, c'est juste pour avoir en fait un effet qui est recherché. C'est souvent ça, en fait, dans la gamification, c'est d'impacter le comportement de l'individu. C'est-à-dire d'essayer de faire en sorte qu'on change son comportement. On a une expérience qui est souvent reprise, c'est dans une bouche de métro à Stockholm. C'était une opération qui consistait en fait à dire comment on peut gamifier les escaliers pour inciter les gens à moins prendre les escalators. Donc ils ont transformé en fait l'escalier en un piano géant. Chaque marche de l'escalier était transformée en une grande touche de piano et les gens en montant faisaient de la musique ou un brouhaha, pas possible. Mais résultat, à la fin de cette expérience, ils avaient à peu près 63% des gens qui prenaient les escaliers contre 93% qui prenaient l'escalator au début de l'expérience. Donc 7% au début, 63% après. Mais, comme tout phénomène de jeu, il faut savoir qu'il y a un phénomène de lassitude. Donc ça marche sur un temps donné et après, il y a une lassitude qui s'installe et il y a de fortes chances pour qu'au bout d'un moment, ce piano géant soit délaissé au profit de l'escalator.
Qui peut être très ludique d'ailleurs, mais bon, c'est une autre histoire. Vincent Berry, en tant que sociologue, regarde sur la gamification et ses processus ludiques qui tendent à être proposés dans plein d'activités, hors champ académique, donc le travail et la consommation aussi, que ce soit dans les magasins ou sur Internet, on veut rendre l'expérience ludique.
Oui, alors ça renvoie quand même à une vieille histoire de l'utilisation du jeu et de l'instrumentalisation du jeu. On a utilisé le jeu dans l'histoire, parfois pour divertir au sens pascalien, c'est-à-dire pour faire oublier aux gens ce qu'ils font vraiment. Donc ça, ça fait partie. Donc il me semble qu'il y a dans la gamification, on trouve cette instrumentalisation du jeu qui n'est pas très nouvelle, mais qui est peut-être plus accélérée par les dispositifs numériques. Voilà. Mais il me semble qu'une partie de la gamification renvoie quand même à aussi des théories qui viennent du design. C'est-à-dire qu'il faut voir que le jeu, dans sa globalité, a explosé dans les pratiques culturelles des Français. Qu'on prenne le jeu de société qui est en augmentation, le jeu vidéo, c'est assez impressionnant le jeu vidéo.
Le jeu sur les téléphones, dans le métro.
Sachant que, en plus, ce qui est compliqué, c'est que les gens jouent et se déclarent non-joueurs. C'est un truc très marrant. Bon, c'est le cas qu'on donne très souvent parce que c'est tiré d'une enquête avec des collègues. On s'est rendu compte que le jeu le plus joué en France, c'est le solitaire, la dame de pique. Vous voyez ces jeux-là où les gens, on leur demande est-ce que vous jouez aux jeux vidéo ? Vous disent absolument pas. On leur demande mais est-ce que au cours des 6 derniers mois, vous avez fait une dame de pique, un solitaire, un Candy Crush, tous ces petits jeux-là, et les gens jouent beaucoup. Donc en fait, il y a une pénétration du jeu et qui fait que du point de vue des recherches sur le jeu et du design, il y a eu quand même une avancée en termes de théorie du jeu, de théorie du design du jeu, et qu'une partie de la gamification me semble s'appuie sur toutes ces réflexions qui sont produites autour du jeu vidéo, autour de qu'est-ce que c'est que l'affordance, par exemple. Ça, c'est des théories qui sont beaucoup utilisées dans le jeu, c'est comment on peut rendre un dispositif plus attractif. Voilà. Donc, il y a ça, donc une partie de la gamification, à mon avis, vient de ce que le jeu est devenu une pratique culturelle importante, qu'elle a développé des théories assez intéressantes et qui vont aujourd'hui dans d'autres domaines que celui simplement du divertissement. Donc il y a deux niveaux, l'instrumentalisation et le fait que le jeu est devenu une culture très, très importante.
Alors Candy Crush, je ne sais pas.
Candy Crush ?
Je ne joue pas trop, mais un jeu type 2048 où on fait des additions ou un solitaire, est-ce que c'est des jeux qui nous apprennent quoi que ce soit ?
Vous apprenez à jouer à ça, ce qui n'est pas rien, et qui vous posera la question de la transférabilité. C'est-à-dire que vous pouvez être très bon au Ruzzle, je ne sais pas si vous connaissez, ou un Scrabble en ligne, et pas très bon, je sais pas, en orthographe ou des choses comme ça. Donc c'est toute la difficulté de la question de l'apprentissage, en fait. Ouais.
Bon, en tout cas, on peut apprendre de mieux en mieux et gagner au jeu. C'est la première fonction du jeu, c'est pour le joueur, c'est de devenir plus performant.
Alors, performant en quoi ? C'est-à-dire qu'on
a gagner.
On a plusieurs types de joueurs. On a des gens qui jouent pour gagner, mais pas que. Donc, il y avait Roland Barthes qui avait fait une classification des joueurs. Alors, ça peut être controversé, mais bon, il faisait 4 grandes catégories. Il y avait ce qu'il appelait les killers, les tueurs, ceux qui jouent pour gagner à tout prix. Mais après, on avait aussi les socialiseurs, ceux qui jouent pour tout simplement passer un bon moment avec les autres. On a aussi les contemplatifs, ceux qui regardent
les autres jouer,
qui finalement qui perdent ou qui gagnent, ils s'en moquent un peu. C'est le fait de regarder les autres jouer, c'est des contemplatifs. Et puis il y a aussi les hackers, mais au sens noble du terme, ceux qui en fait essayent de voir les limites du jeu, qui essayent de le détourner, qui essayent de faire en sorte que finalement, si on pousse le jeu dans ses retranchements, est-ce qu'il va tenir le choc, etc. Donc en fait. Et tout ça, il ne faut pas oublier qu'on est pluriel. C'est-à-dire qu'un jour, on peut être killer, et puis quelques minutes après, on peut redevenir un contemplatif, et puis quelques minutes après, on peut devenir un hacker. Enfin, voilà, on est pluriel, on n'est jamais dans une case, on fluctue avec le temps. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose aussi, je voudrais parler d'un phénomène qui est important, parce que Vincent le souligne, et je trouve ça très important, c'est effectivement l'apport massif du jeu vidéo, c'est-à-dire qu'autant on parle de culture vidéoludique, de culture ludique, moi j'ai envie aussi de parler de la culture vidéoludique qui s'inscrit aussi dans notre société et qui est très forte. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on est en 2019, on considère que Pong, sorti en 1972, c'est le premier succès commercial de l'industrie vidéoludique. Le jeu Pong, c'est le jeu avec deux petites raquettes. Hein, on se renvoie une balle.
Donc deux barres et une bille qui passe. Et qu'il faut,
voilà, donc très simple, très minimaliste aujourd'hui, mais qui a connu un succès à l'époque qui était assez important et qui a permis aux gens de découvrir ce nouveau support, le support vidéoludique. Et donc à partir de là, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit apparaître dans notre société ? Toute une série de déclinaisons. On voit par exemple les phénomènes artistiques qui sont impactés par le jeu vidéo. Vous avez à commencer par des tags qui font référence à la culture vidéoludique, donc des personnages comme les Space Invaders que vous trouvez dans certains coins de rue, des Pac-Man. Vous trouvez aussi des allusions à Tetris. Et puis vous avez aussi des installations artistiques un peu plus importantes. À la Fête des Lumières, par exemple, à Lyon, vous pouvez trouver du vidéo mapping qui fait allusion à certains jeux. Vous avez aussi la possibilité d'interagir à plusieurs pour faire une partie de Tetris géant vente sur des façades d'immeubles. Vous avez aussi des produits alimentaires qui déclinent les bonbons, les gâteaux. Vous avez la possibilité aujourd'hui de vous marier avec un gâteau avec Peach et Mario qui vont se retrouver en haut du gâteau. Voilà, on trouve tout un ensemble de produits dérivés, des chaussettes, le textile.
Des films.
Des films, des cravates, voilà, qui font allusion à du jeu vidéo. Vous avez également des objets comme par exemple le radio réveil. Vous pouvez vous réveiller le matin avec un radio réveil Pac-Man, Tetris ou Space Invaders. Vous pouvez ensuite partir à l'école avec le cartable ou la trousse taguée à l'effigie de ces personnages-là, des personnages plus récents.
Bah, c'est la première industrie culturelle. Le jeu vidéo.
Oui, et donc on le retrouve sous tout un ensemble de produits dérivés et ça impacte également d'autres strates. Donc la question que ça pose derrière, si on revient à ce que disait Vincent tout à l'heure, c'est pourquoi finalement on trouve de plus en plus d'adultes qui ont envie de cultiver le jeu. Est-ce que ça veut dire qu'on... Alors ça c'est une hypothèse que j'ai entendue, c'était Marc Menou à Toulouse qui me disait que finalement peut-être que notre société est devenue tellement complexe, qu'on a besoin de rester enfant plus longtemps et que c'est peut-être pour ça qu'on a besoin de jouer ou de cultiver le jeu pour pouvoir mieux appréhender cette complexité. C'était une théorie qu'il a avancée. Après, on peut la discuter, mais je trouvais que c'était assez intéressant.
Pour échapper à la complexité du monde aussi et se reposer. Alors, vous venez de me chuchoter un truc à l'oreille qui m'a énormément étonnée. C'est à cause de Barbie.
Non, alors, c'est un peu. En fait, effectivement.
Non, vraiment, Vincent Berry, j'ai besoin de savoir et les gens ont besoin de savoir. Là, parce que...
C'est à cause de tout ça et à cause de Barbie, en fait. Non, c'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on a d'enquête en enquête, c'est qu'effectivement, on voit une extension du jeu dans la société, en tout cas en France, mais c'est vrai aux États-Unis. Alors, je n'ai pas toutes les enquêtes en tête, hein, mais en plus. Il y a des pays qui ne font pas d'enquête sur les loisirs. Je m'appuie sur les enquêtes de loisirs. Donc vous avez une augmentation qu'on peut voir d'année en année du jeu, jeux vidéo clairement, mais aussi jeux de société, tous ces trucs-là. Et donc on se demande... Alors effectivement, il y a plein d'hypothèses. Hein, et je ne dis pas qu'on a la clé, que j'ai la clé, mais un des éléments de compréhension, c'est quand même de comprendre ce qui s'est passé dans les années 50-60, c'est-à-dire au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, avec aux États-Unis avec un baby boom, c'est-à-dire une société qui s'est retrouvée avec beaucoup de jeunes et beaucoup d'enfants notamment. Et donc on a vu émerger dans ces années-là toute une industrie du divertissement, parmi lesquelles Barbie, mais aussi G.I. Joe, enfin toute cette culture du jouet et qui a été une culture qui a transformé ce qu'était le jouet avant, c'est-à-dire... Barbie, c'est l'introduction de la fiction, G.I. Joe, les maîtres de l'univers, enfin tous ces trucs-là, c'est tout d'un coup le jouet, c'est le jouet moderne en fait. Et quand vous lisez le texte de Barthes à l'époque, Roland Barthes pour le coup, qui disait mais quel est cet objet horrible, le jouet contemporain, c'est-à-dire le jouet qui fait pas, qui est anti-platonicien, c'est-à-dire le jouet qui fait référence aux extraterrestres, aux monstres et tout ça. Donc l'hypothèse sur laquelle je travaille et d'autres collègues, hein, vous avez d'autres chercheurs comme Strickland qui travaillent là-dessus, c'est l'idée que en fait, il y a eu une transformation de l'enfance et des jouets de l'enfant dans les années 50-60 où on s'est dit le jouet est en train de tuer l'imaginaire des enfants. C'était un des grands trucs. C'est ce que dit Barthes. Hein. Mmh. C'est-à-dire, au fond, le bon vieux jouet en bois, on imaginait des choses.
C'est ce qu'on a dit sur Disney aussi.
C'est ce qu'on a dit sur Disney. Exactement, c'est ça. Et en fait, ce dont on se rend compte quand on fait une espèce de genèse des industries du jeu et de la culture ludique, c'est que des enfants nés dans ces années-là sont ceux qui ont inventé le jeu de rôle quand ils étaient jeunes adultes et qui ont inventé le jeu vidéo. Et donc, au lieu de tuer l'imaginaire des enfants, ça a produit des générations qui ont un goût pour l'imaginaire. C'est ça le truc. C'est-à-dire que ce qui s'est produit, c'est l'inverse de ce qu'on pensait, c'est-à-dire que ça va tuer l'imaginaire et ça a donné au contraire un goût pour la fiction, comme à mon avis, on n'a jamais vu des sociétés adorer autant la fiction et donc la développer à toutes les étapes de la vie. Ce qui est très marrant, c'est le succès de Tolkien. Tolkien était un type qui était relativement à la marge, qui était déjà vieux en fait quand il a eu du succès et c'est une génération qui n'est pas la sienne qui se l'est appropriée. Par cet effet de décalage-là, ouais, tout d'un coup. Et donc, moi, l'hypothèse que j'ai, c'est que enfin, ce que tu dis, ça invalide pas du tout ce que tu dis, hein, mais c'est de dire, au fond, on a quand même un effet sociodémographique de générations qui ont été élevées et biberonnées à la fiction et qui, en grandissant, continuent à avoir la fiction. Et, ce qui est et un goût pour le jeu, ce qui est très marrant là, dans l'enquête que je termine avec des collègues, c'est que, par exemple, on s'est dit, tiens, on va regarder qui joue au tarot à la belote en France. Et on s'est dit, bon, ça va être un truc de personnes âgées. En fait, non, c'est, même les jeux traditionnels sont pratiqués massivement par les jeunes générations et par les plus jeunes.
On joue davantage. Alors, est-ce qu'il y a des questions, des interventions, des remarques sur le jeu, des choses peut-être qu'on n'a pas dites et que vous auriez envie d'ajouter ?
Je peux faire passer le micro.
Je crois que Sébastien va rester sans... Ah, faut toujours un petit moment. Ça, c'est les Français, l'oral. Enfin, on peut faire un autre cycle de conférences. Merci beaucoup, en tout cas.
Oui, bonsoir. Bon, c'était intéressant. Je ne suis pas du tout ni dans l'éducation, ni dans les jeux. Je suis passé par l'éducation et par les jeux, comme tout le monde. Dans ce que vous disiez, je me posais dès le début la question de la possibilité pour les joueurs... d'élaborer les règles. Dans tout ce que vous envisagez, il me semble qu'il y a toujours une règle qui est donnée, puis après, les joueurs qui essaient de s'approprier. Alors après, bon, éventuellement, effectivement, avoir un recul, quelqu'un qui a un recul pour tirer les leçons de tout ça, débriefer, comme on disait. Mais est-ce qu'il y a des expériences qui sont faites sur les possibilités pour les joueurs d'élaborer des règles. Je pensais, en vous écoutant, à ma petite nièce avec qui je jouais hier, et au jeu d'imitation avec des figurines. Ce n'était pas des poupées, mais des figurines d'animaux, etc. Et tout de suite, il y a des histoires qui se mettent à exister. On jouait, il n'y avait pas de règles. Il n'y avait pas de but, et encore moins de gagnants ou de perdants. Mais il y a des scénarios comme ça qui se créent, l'imagination, effectivement. Et donc, est-ce qu'il y a des expériences qui sont faites ? Parce que ça aussi, ça peut être un intérêt de créer des règles.
Je vais compléter votre intervention, parce que pour observer des enfants jouer librement, il y a effectivement cet aspect de décider qu'on joue, je sais pas, au dragon, enfin se mettre dans un univers inventé en référence, je sais pas, ou à Harry Potter par exemple, souvent à des fictions qu'on connaît. Et puis le jeu, en fait, c'est d'inventer les règles du jeu, ce qui rejoint une pratique scolaire que moi je connais et que je vois comme une pratique très courante, qui est effectivement l'invention de jeux. Par exemple, pour participer à des concours, mettons un concours sur l'environnement, les classes peuvent présenter des projets librement et beaucoup de classes vont présenter des jeux où on va gagner suivant qu'on a un projet plus ou moins, un peu comme le jeu que vous décriviez. Et ça, ce sont les classes qui l'inventent. En fait, l'idée de créer des jeux fait aussi partie d'une possibilité vue comme pédagogique et actuellement qui me semble avoir le vent en poupe, mais je ne sais pas si c'est ancien ou non. Et d'ailleurs, je vais maintenant me taire et laisser les spécialistes vous répondre.
Tout à fait.
Dans le domaine en particulier des jeux vidéo, est-ce qu'il y a ce genre de...
Alors, parmi les succès, parce que globalement, quand on regarde l'usage du jeu vidéo à l'école, c'est très faible. Hein. En France, on est vraiment résiduel, c'est entre 5 et 10% selon les niveaux. Enfin, on n'a pas de chiffre très précis, mais c'est relativement... Alors, ce qu'on a, on a quand même quelques jeux qui ont réussi à percer, notamment en collège, vous avez eu Minecraft, qui a eu... je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. Ça ressemble au Lego en jeu vidéo, c'est-à-dire vous pouvez construire ce que vous voulez, agencer, vous pouvez construire tout un monde, si vous avez un, c'est ce qu'on appelle un univers bac à sable. C'est-à-dire vous avez des grosses briques, en gros, et puis vous pouvez fabriquer tout ce que vous voulez, ça ressemble vraiment à une logique de Lego. Ce qui est marrant, c'est que c'est un jeu qui a été produit un peu à la marge et qui s'est retrouvé avec un succès phénoménal. Et notamment, aux États-Unis, au Canada, il y a eu une appropriation par les universités, par les écoles de ce jeu-là, qui l'ont utilisé, et donc ils ont développé une version Minecraft éducation qui est censée être adaptée. Donc on trouve un peu en collège et lycée. Mais ce qui est très intéressant, et là on va revenir sur l'effet, et encore une fois, c'est pas du tout pour condamner le système français scolaire qui a aussi d'autres mérites, hein, qui a des défauts et certains mérites, mais c'est qu'en fait, dans les enquêtes notamment que mène un de nos doctorants sur Minecraft, c'est que du coup on réintroduit une consigne. Donc on vous dit, jouer à Minecraft, mais il faut fabriquer, alors ça dépend. Et tout ça, c'est parce que derrière, il y a la logique du programme et du curriculum. Et que laisser les élèves complètement créatifs, parce qu'encore là, dans l'exemple que vous donnez, il y a un objectif pédagogique derrière. Mais de dire, on laisserait comme ce que vous évoquez, c'est-à-dire, vous avez le droit de jouer pendant 2 heures à Minecraft et vous faites ce que vous voulez. En fait, c'est problématique parce qu'il faut justifier de l'activité au regard du programme, quoi. Et donc, tout de suite, ce qui fait que c'est pour ça qu'on a tendance à réintroduire une consigne en disant, faites-moi la cathédrale de tel truc, pour que ça corresponde un peu au programme d'histoire, au programme de... Voilà. Donc on a toujours cette tension-là, hein, ça ne veut pas dire que c'est inintéressant, mais que les activités purement créatives, comme vous les... Donc il y en a dans le jeu vidéo, il y en a beaucoup, mais une fois qu'elles sont réintroduites à l'école, dans les cadres des loisirs, elles sont très importantes. Quand c'est réintroduit à l'école, il y a une transformation quand même du jeu en autre chose.
Et curriculum, parce que je dois quand même préciser, c'est à la fois le programme scolaire et les apprentissages qui sont attendus à l'issue de ce programme. C'est un mot qui est utilisé dans les sciences de l'éducation à l'international, mais pas trop utilisé dans le jargon, c'est du jargon français, pas dans le vocabulaire courant. Quand on parle de l'école, on parle plutôt de programme en français. Julien Alvarez,
oui,
si vous voulez intervenir
si
sur ce point.
Si ça vous intéresse, vous avez les écrits de Jean Château, qui dans les années 50 observait les enfants dans les cours de récréation. Et il avait effectivement analysé qu'il y avait différentes étapes dès qu'on introduisait un nouvel objet dans la cour de récréation. C'est-à-dire d'abord, il y a... Pour découvrir l'objet, alors si par exemple on introduit un cerceau, le cerceau d'abord il va faire l'objet de curiosité, c'est-à-dire les enfants vont manipuler l'objet, ils vont le faire tourner, ils vont essayer de comprendre finalement quelles sont ses propriétés physiques notamment. Et puis ils vont commencer à trouver de l'amusement. Et puis c'est que uniquement dans une deuxième étape qu'on va commencer à trouver une forme de structuration, c'est-à-dire de cet amusement sous la forme d'un jeu avec des règles. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, le cerceau, c'est « Ah tiens, ça roule, très bien, peut-être qu'on pourrait imaginer maintenant qu'on va faire le jeu de celui qui arrive à faire rouler le cerceau le plus loin possible dans la cour de récréation sans le faire tomber. » Et comme ça, de fil en aiguille, on arrive à introduire des règles. Alors ces règles, elles sont un peu, flottantes. Cette règle-là, elle est un peu trop compliquée, on n'arrive pas à jouer avec, donc on la laisse tomber. Ah mais ça, c'est plus drôle, on essaye d'introduire. Donc par tâtonnement, par itération, on va introduire de nouvelles règles. Et ce qu'avait remarqué aussi Jean Château, c'est que les enfants sont des éponges et qu'en fonction de ce qu'ils vivaient dans l'actualité, ils introduisaient ça aussi dans leurs activités de jeu. C'est-à-dire que quand il y avait eu, par exemple, un décès dans le village, les activités de jeu pouvaient se conformer à ça. C'est-à-dire, on va jouer à l'enterrement. Donc, on va porter le cercueil, on va simuler. Donc, c'était un besoin aussi d'exprimer l'actualité qu'on retrouvait à travers le jeu. Donc, on voit que finalement, il y a plein de choses qui se passent dans ces constructions qui sont très intéressantes à analyser. Donc, on peut tout à fait imaginer des séquences ludopédagogiques où, en fait, en fonction de ce que va faire l'enfant, on va pouvoir amener des sujets de débat. Et ça, encore une fois, c'est une expérience que j'avais vécue en Suède. Alors, c'est une anecdote qui est assez drôle. On nous avait tous fait coucher sur une feuille de papier et on nous avait dessiné le contour du corps. Et donc, les enseignants nous ont dit, vous dessinez ce que vous voulez à l'intérieur de ce corps. OK. Donc, il y a des enfants, ils ont dessiné des fleurs, des trucs. Et moi, j'avais dessiné un squelette. Et une fois qu'on avait fini l'activité, je me suis fait convoquer par 2-3 enseignants qui étaient affolés en disant « Qu'est-ce qui se passe chez toi ? T'as représenté un squelette ? Pourquoi ?» Et ils voulaient savoir si j'étais maltraité, si j'étais face à la mort, si j'étais en deuil, etc. Je dis « Non, moi je suis fasciné par le squelette, l'anatomie, comment fonctionne le corps humain, etc. etc. » Et donc ils m'ont expliqué « c'est intéressant, on va t'expliquer, effectivement on a des os. » Et donc on est parti sur un échange et après ils ont convoqué plusieurs enfants et ils ont fait un atelier sur le squelette en fait. Et qu'est-ce que c'est que le squelette et comment ça fonctionne, etc., etc. Et c'était venu par l'improvisation de cette activité, par effectivement les suites qui avaient été données à ça. Donc c'est possible, mais comme dit Vincent à juste titre, dès qu'on rentre dans des programmes scolaires, parce que là c'était préscolaire, il y a effectivement la justification du programme.
L'évaluation.
L'évaluation, et puis surtout de ne pas donner l'impression que l'enseignant est là pour faire de l'occupationnel.
Puisque ça serait peut-être mal vu, mais ça aussi, ça, c'est fortement culturel. Est-ce qu'il y a une autre intervention, réflexion, question ? On va peut-être conclure avec vous, Vincent Béret. Moi, j'ai envie de vous poser une dernière question. Si cette façon qu'on va avoir de créer des jeux et de relier des enjeux plus ou moins sérieux, d'apprentissage, mais pour les enfants, ça peut être de parler de tel ou tel sujet à des jeux et de faire que ces jeux soient compétitifs ou collaboratifs. Ça, c'est très lié à des cultures, nos cultures. Est-ce que c'est lié aussi à des milieux sociaux, à des âges, finalement à quoi on joue, comment on décide de faire de son jeu un apprentissage, plus ou moins consciemment d'ailleurs, où on ne décide pas, mais voilà, parce que ce besoin, il existe, et même chez les adultes aujourd'hui, mais il prend des formes différentes. Alors, qu'est-ce qui va influer sur ces formes ?
Ben ce sera peut-être en tout cas l'idée que j'aurais défendue, c'est-à-dire les dispositions des enfants à jouer sont très différentes selon les milieux sociaux, alors qui tiennent d'abord à la place des parents, c'est-à-dire que, alors pour le jeu de société c'est vrai, c'est-à-dire que le jeu de société, on arrive à voir que quand vous avez des parents joueurs, vous développez un goût pour le jeu de société. Ça veut pas dire que c'est parce que vous avez pas de parents, vous n'en développerez jamais, hein. C'est-à-dire que vous avez, un peu comme la lecture, on arrive à mettre en évidence des relations entre le fait d'avoir des parents lecteurs et un goût pour la lecture. Et on se rend compte que d'avoir des parents joueurs a un effet sur la question du goût. Alors, je vous dis, c'est vrai pour le jeu de société. C'est pas vrai pour le jeu vidéo. Le jeu vidéo, c'est un truc complètement ce qu'on appelle le modèle conformiste en sociologie, c'est-à-dire je joue au jeu vidéo parce que les autres copains jouent au jeu vidéo. Donc que les parents jouent pas, c'est totalement indépendant. Donc on a ces effets-là. Après on a des effets de milieux sociaux, c'est-à-dire le temps qu'on passe à jouer avec les enfants. Donc a une influence évidemment sur la disposition au jeu, mais aussi donc elle est stratifiée socialement avec ce truc très intéressant qui est que c'est du côté des enfants des milieux populaires et des enfants des cadres sup et des professions supérieures que vous avez le moins de pratiques par enfant. Donc ils se rejoignent là-dessus, pour une fois, ils se rejoignent là-dessus. Alors pour des raisons différentes, hein, souvent qu'on va avoir un peu plus de familles monoparentales, donc le temps, notamment parce que c'est souvent les mères qui jouent, malheureusement, les pères jouent, hein, mais globalement dans les pratiques parents-enfants, on a la mère qui est un peu plus présente. Dans les milieux ouvriers, c'est plutôt les milieux populaires, c'est plutôt puisque la gestion du temps qui est beaucoup plus compliquée. Et chez les cadres supérieurs, c'est parce qu'en fait, c'est pas un dégoût du jeu, mais c'est quand même une faible valorisation du jeu. Hein. Quand on demande aux gens, est-ce que vous pensez que c'est bon pour le développement de l'enfant ? En tout cas, pour l'éducation, les cadres sup sont pas les plus enthousiastes à cette idée-là.
On préfère des activités plus formelles.
Voilà, c'est-à-dire, et quand on regarde les loisirs des enfants, c'est des loisirs très cadrés. C'est-à-dire, donc ils jouent moins parce qu'en fait, les enfants ont beaucoup d'activités. Ils font du piano, ils font des choses comme ça. Voilà. Donc on a ce truc-là qui vous fait des différenciations entre les enfants. Et puis évidemment, des différenciations en termes de genre, avec ce truc qui est vraiment une espèce de tendance générale à plein de niveaux. Donc il y a des différences, quelle découverte entre les jeux des garçons et les jeux des filles. Mais ce qui est vraiment intéressant qu'on trouve chez les enfants, chez les adultes, dans le jeu vidéo, dans le jeu de société, c'est que les filles ont tendance à avoir une culture ludique beaucoup plus riche que celle des garçons, beaucoup plus diverse. Et qui tient au fait que, comme il y a, on va quand même garder cette idée qu'il existe une domination masculine, et qu'en fait, quand on observe les formes de jeu auxquelles les petites filles sont capables de jouer, c'est aussi en termes de compétences, elles sont beaucoup plus compétentes que les garçons, c'est-à-dire qu'elles peuvent franchir très facilement la question de la barrière symbolique du genre. Autrement dit, elles peuvent aller jouer au foot, hein, Et puis, elles peuvent jouer à la poupée, elles peuvent jouer à plein de formes différentes de jeux sans mettre trop en danger leur identité. Alors que la pression, parce que les garçons, puisque la norme est le masculin, enfin la norme dominante est le masculin, les garçons sont, pour reprendre Bourdieu, dominés par leur propre domination, donc ils ont une culture ludique beaucoup moins riche, et donc ils jouent à beaucoup moins de jeux, donc ils sont beaucoup plus conformes que les petites filles. Et alors ce qui est marrant, c'est que ça marche chez les petites filles, mais ça marche quand vous regardez chez les adultes, ou si on prend les pratiques de jeux vidéo, vous allez avoir des effets tout à fait identiques de disposition au jeu, c'est-à-dire qu'on va, et ce qui est une bonne chose, on va valoriser beaucoup les gameuses de jeux vidéo, si on vous dit, regardez, il y a de plus en plus de joueuses dans les jeux compétitifs. C'est vrai, mais sauf qu'en fait, c'est une dynamique qui est présente dans la culture ludique en général, mais il reste toujours très peu de garçons qui jouent à des jeux de filles, enfin dits de filles, qui vont très peu jouer aux Sims, qui vont très peu jouer à des jeux de drague sur Internet. Et donc, on a cette dynamique-là qui fait que vous avez des dispositions au jeu et qu'introduire le jeu, c'est aussi enfin, un des enjeux du jeu pour apprendre, je suis d'accord, mais c'est aussi apprendre à jouer à différentes formes de jeux et introduire le jeu à l'école, c'est apprendre aussi bien aux petits garçons à jouer à la poupée que... voilà. Ça, c'est un des enjeux importants. Je ne suis pas sûr que ce soit au programme de l'éducation nationale en ce moment.
Donc voilà les effets. Voilà. Plutôt du côté des filles, mais ça pourrait être un programme que tu
mais par un effet de domination, oui. En fait. C'est ça qui est paradoxal.
Ouais. On l'a bien... compris. Il paraît qu'il y a des programmes pour l'égalité dans l'éducation, mais ce serait un autre sujet. Merci beaucoup. Merci Julien. Merci Vincent. Merci de votre attention. Et merci Sébastien pour votre accueil à la BPI.
Merci, merci à tous.
Donc,
je remercie aussi
sur Julien Alvarez, Vincent Berry et bien sûr Louise Touré d'avoir animé ces trois rencontres. Donc c'était la dernière. Vous pourrez la retrouver celle-ci. Alors, les précédentes, la première est déjà en ligne. Vous pourrez retrouver donc la deuxième rencontre et celle-ci très prochainement, donc dans quelques semaines, sur le site de la BPI en tapant Web TV BPI. Et pour terminer, je vous souhaite une très très bonne soirée.